Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Maria Claudia Varela. Maria Claudia est avocate depuis 2017 et elle exerce au barreau de l'Essonne où elle est collaboratrice et pratique principalement le droit du travail. Elle m'a été recommandée par Jordi Dufresne, que je remercie. Et je remercie également Matt Decey pour son avis et ses étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Un avis absolument dithyrambique, puisque non seulement selon Matt Decey, c'est un podcast qui devrait être intégré dans le cursus des CAFPA, mais en plus, il nous dit que je devrais être financée par l'ordre tellement je fais du bien à la profession. Donc appel à l'ordre ou au CNB si parmi vous il y en a qui voudraient financer Fleur d'Avocat en partie, et bien c'est avec grand plaisir que mon compte en banque vous est ouvert. Vous connaissez la musique, vous aussi, laissez 5 étoiles et un avis sur Fleur d'Avocat pour que le podcast gagne toujours plus en notoriété, ce qui n'est pas un mal. J'ai fait une formation récemment pour l'école des avocats du Grand Ouest et sur les 10 personnes présentes, seulement 2 connaissaient déjà Fleur d'Avocat avant de s'inscrire, et je trouve que c'est tout à fait insuffisant et qu'il faut donc encore que je fasse connaître Fleur d'Avocat toujours plus et notamment dans les territoires. Donc aidez-moi à pousser le podcast dans les algorithmes et puis bien évidemment parlez-en autour de vous, le bouche à oreille est quand même la meilleure recommandation. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour Maria Claudia Varela.
Exactement, bonjour Lila Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci de m'avoir invitée, ça me fait vraiment plaisir.
Eh bien, plaisir partagé. Maria Claudia, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors, comment j'ai envie de dire, c'est depuis toute petite. Et pourquoi aussi, hein, du coup, ça répond aussi à la question. En primaire, en fait, j'avais déjà l'idée de devenir avocate. Enfin, soit avocate, soit prof de maths. Donc, en fait, j'ai tout de suite éliminé les maths.
À cause des premières tables de multiplication.
Non, mais en fait, j'ai toujours aimé les maths. Mais c'est vrai qu'arrivé au lycée, en fait, il fallait faire un choix. Et j'ai pas réfléchi, en fait. Et je me suis dit, je veux faire du droit, je veux être avocate. Donc, je vais me lancer.
Et l'envie d'être avocate, vous vous souvenez d'un élément un peu déclencheur, de quelque chose qui vous faisait rêver? Est-ce que c'était quelqu'un dans votre environnement? Est-ce que ça a été à la télé ou un film?
Pas du tout. Alors, dans mon environnement, non, pas du tout, parce que personne n'a fait du droit avant moi. Non, même pas un film, rien du tout. Mais j'ai toujours, en fait, aimé les métiers avec des uniformes, déjà, ou des...
Des costumes. Enfin,
voilà, exactement. Et donc, du coup, le métier d'avocate, pour moi, c'était un petit peu inaccessible, on va dire. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye. Voilà.
C'était inaccessible pour quelle raison?
Alors, inaccessible parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, dans ma famille, il n'y a pas de personnes qui font du droit. Mes parents, mon père est dans le bâtiment, ma mère est femme de ménage. Donc, c'est vraiment... Enfin, nous, on est un petit peu la génération qui va faire de nouveaux métiers. Enfin, qui en tout cas a accès à l'éducation, qui va faire
des études supérieures.
Exactement, voilà, tout à fait.
Mmh. Et donc, ça a un sentiment de peut-être venir de loin par rapport à ce projet de devenir avocate?
Exactement, oui, c'est exactement ça. Et puis, mes parents, ils ont toujours dit, pour avoir un bon métier, il faut travailler à l'école, il faut que vous fassiez des grandes études, des études supérieures, parce que nous, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas pu en faire. Donc, vous, il faut que vous en faisiez. Mm. Il faut que vous en faites, pardon.
Et quand... Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous projeter dans des études de droit dans ces conditions? Ou est-ce que, avec ce soutien de vos parents et cet encouragement, vous vous êtes sentie forte et en capacité d'y aller?
Difficile, oui et non, parce que on se dit toujours, on va peut-être pas y arriver. Vu qu'on vient pas d'un milieu social dans lequel on voit beaucoup de personnes qui font du droit, forcément on se dit c'est peut-être ça va peut-être pas être le métier que je vais faire. Et non, parce qu'effectivement mes parents m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours dit il faut avoir des bonnes notes, il faut que tu sois l'une des meilleures, il faut que tu puisses faire des études, si tu as des bonnes notes tu feras le métier que tu veux. Ils m'ont toujours dit ça, donc du coup voilà.
Et ça Vous avez acheté.
Voilà, exactement. Bah ouais, non, mais c'était. Après, ils avaient raison parce que forcément, quand on vient d'un milieu social, pas forcément.
Favorisé.
Voilà. J'ai envie de dire, on est obligé de faire plus que les autres, de montrer un petit peu plus que les autres pour se démarquer.
Oui.
Voilà.
Et ça, ça vous a coûté ?
Oui. Bah, j'ai beaucoup travaillé. J'ai forcément, j'ai écouté mes parents, j'ai eu des bonnes notes. Et ça, jusque dans mes études supérieures.
Hein. Ouais.
Voilà.
Comment ça s'est passé l'arrivée à la fac, justement ?
Alors, l'arrivée à la fac, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai un bon souvenir. Après, c'est vrai que c'était, pas pareil. C'était différent du lycée, puisqu'on arrive à la fac, on est un petit peu lancé dans des grandes études. On voit des personnes de tous milieux. On rentre dans des amphis bondés, on est je ne sais combien d'étudiants. On se dit, mais est-ce que je vais y arriver, quoi ? On est tellement que forcément, on ne va pas tous y arriver, quoi.
Ouais.
Donc, voilà.
Et face à cette deuxième adversité ?
Ouais, écoutez... ouais, exactement. À la fac, oui, il fallait encore plus travailler parce qu'on était encore plus nombreux, donc il fallait encore plus se démarquer. Et forcément, ça passe par le travail.
Et oui, et vous parlez beaucoup de notion de démarcation, de se démarquer.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Et de se démarquer par le travail, par les notes en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Oui, parce que moi c'est quelque chose qui a fonctionné, on va dire, depuis la primaire. Oui, c'est ça. Depuis qu'on commence à avoir des notes.
Oui.
Depuis la primaire, quand les parents signent les cahiers. Forcément, où il y a les notes, ils regardent tout. Donc, forcément, ils disent « Ah, c'est très bien, c'est très bien. » Donc, voilà. Donc, oui, depuis la primaire, hein, j'ai toujours eu des bonnes notes. Les félicitations, c'était obligatoire pour mes parents. Donc, voilà. Pour eux, il fallait avoir les félicitations. C'était obligatoire un petit peu. Donc, du coup, j'ai poursuivi dans cette lancée.
Et ça a été une source de pression plutôt... négative à un moment, ça ou pas ?
On va dire plutôt à la fac,
plutôt
je dirais.
À la fac.
Ouais, plutôt à la fac, parce qu'avant il n'y avait pas de difficulté. Au niveau des cours, etc., ça se passait très très bien. Moi, j'ai une bonne mémoire aussi, donc j'ai pas forcément besoin de réviser beaucoup à la maison. Donc ça se passait bien. C'est vrai qu'à la fac, ça devient un peu plus compliqué dans le sens où on apprend de nouvelles choses, on apprend une nouvelle méthode de travail, de nouvelles méthodes de travail. Donc forcément, oui, c'était un petit peu
le
plus
le fait
compliqué.
Que ce soit moins facile d'avoir les félicitations
voilà.
faisait que la pression était un peu moins
c'est
facile
sûr.
À gérer.
Exactement, oui. Non, mais c'est sûr qu'à la fac, ça change. Hein. J'en garde un bon souvenir parce qu'effectivement, on fait de belles rencontres aussi. Mais c'est vrai qu'il fallait encore plus travailler pour avoir des bonnes notes.
Ouais. Mmh. Et est-ce que ça vous plaisait, le droit ?
Oui.
Pour le coup, il n'y a pas eu de difficulté de ce point de vue-là.
Ça m'a plu. J'avoue qu'en première année, je me suis dit, c'est la première année, c'est les matières de base, voilà. Donc, au début, on va dire que j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop général. Et par la suite, j'ai plutôt accroché à partir de la deuxième année, où on voit le droit pénal, et puis en troisième année, le droit du travail aussi, donc... C'est vrai que à partir de la deuxième année, c'est vrai que je me suis dit, je veux faire.
Moi.
Voilà,
ouais.
Exactement, ouais.
Ça a été la concrétisation de ces
fait.
Années de projection.
Tout à fait.
Et comment est-ce que vous avez fait vos choix d'année en année ? Alors, on a compris que vous aviez beaucoup travaillé et que vous aviez des bonnes notes.
Voilà.
Et donc, j'imagine que ça vous a permis d'avoir un dossier qui pose pas de difficultés au moment des différentes sélections.
Alors, au moment de l'entrée en première année à la fac. Pas de sélection, donc il n'y a pas de difficulté. Je suis allée à la fac la plus proche de chez moi, donc j'ai pas fait d'autres choix de fac. Ensuite, ça se corse un petit peu au niveau du master. Donc au master 1, j'ai décidé de faire un master un peu plus spécialisé.
En quoi ?
En droit du travail.
Parce que coup de cœur pour le droit du travail.
Exactement,
parce que...
En troisième année, en fait... Je me suis dit, mais c'est trop bien. Enfin, le droit du travail, c'est trop bien, c'est trop intéressant. Et puis, j'avais des bonnes notes, du coup. Donc, je me suis dit, voilà, en fait, c'est ce que je veux faire. Et
ça
c'est vrai
m'intéresse,
que,
j'ai des bonnes notes.
Ouais, je vais poursuivre. Donc, franchement, le droit du travail, ça a été un coup de cœur.
Mm. Et donc un master 1 spécialisé en la matière.
Exactement, ouais.
Et après ?
Et après, master 2. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué parce que le master 2, c'est beaucoup plus sélectif. Il faut préparer des dossiers, des dossiers, des dossiers. Donc moi, j'ai fait des dossiers pour toutes les facs parisiennes et j'ai fait un seul dossier pour une fac en province. Parce que, en fait, comme je connaissais des personnes qui habitaient à côté de cette fac, j'ai de la famille qui habite à côté de cette fac. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer cette fac en province. Si je n'ai pas de réponse positive, en fait, en région parisienne, je partirai si j'ai une réponse positive en province.
Ouais.
Voilà.
Et alors ?
Et alors, que des refus en région parisienne. Oh ouais. Et là, c'est
dur, ça ?
Ouais, c'est un petit peu la désillusion, j'ai envie de dire. Parce que, à la fin du Master 1, en fait, on a eu en fait, des échanges avec nos professeurs. Et puis, ils nous disaient, c'est pas grave si vous n'avez pas de Master 2. Parce que moi, j'étais en fait à la fac à Nanterre. Donc, c'est vrai que je voulais poursuivre en fait, mon Master 2 à Nanterre. Et c'était super sélectif. Il y avait des étudiants qui venaient de toute la France. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Donc forcément, on voit nos chances d'accéder à ce Master 2 se réduire. Et donc, j'ai du coup été... Enfin, j'ai parlé avec ces professeurs. Ils nous ont dit, si vous n'avez pas de Master 2, ce n'est pas grave, vous ferez l'IEJ. De toute façon, vous pouvez accéder au concours d'avocat directement avec un bac plus 4.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas un échec en soi de ne pas avoir de Master 2. Il y a une autre possibilité, une autre voie de sortie, on va dire.
Oui, ouais. Mais vous avez quand même dit que ça a été une désillusion. Mmh. Est-ce que ça a été une désillusion parce que vous aviez beaucoup travaillé, vous estimiez que votre dossier vous donnait accès aux facs que vous vouliez, ou est-ce que... Enfin, voilà, c'était quoi le sentiment derrière cette désillusion ?
Je me suis dit, en fait... Il y a pas, parce que je voulais poursuivre en fait dans un master spécialisé en fait en droit du travail, et je me suis dit déjà il y en a pas beaucoup, même dans la France il y en a pas beaucoup. Là où il y en a, les places sont limitées, c'est je pense 20 à 30 étudiants par master. Que ce soit les masters recherche ou master professionnel, je sais qu'à Nanterre il y avait du coup 3 masters dont un professionnel, donc 90 places, et on était je ne sais combien d'étudiants à faire des dossiers pour justement avoir cette place. Et donc des illusions, ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de places, on était des milliers d'étudiants à postuler, et puis moi je voulais absolument faire un Master 2 en fait. Donc je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir le faire ?
Et donc ça n'a pas été possible à Paris ?
Exactement.
Est-ce que ça a été possible ailleurs ?
Oui, pour le coup, oui. J'étais en liste d'attente.
Oui.
Faut savoir que oui, j'étais en liste d'attente jusqu'au mois de septembre. Donc c'était vraiment
dur cette période.
Ah ouais, super. Ah ouais, trop dur parce que tout l'été en fait, j'étais en stage en fait en cabinet d'avocat et dans ma tête, je me suis dit j'ai mon stage jusqu'en décembre et ensuite je ferai l'IEJ comme le professeur nous avait dit. Donc je me suis dit j'avais pas plus trop d'espoir en fait. Je me suis dit je suis sur liste d'attente, je vais peut-être pas la voir quoi. Et donc j'ai reçu un mail du directeur du master et du coup il me disait oui, votre candidature est retenue, est-ce que vous voulez toujours faire partie du master? Mais j'ai répondu direct tout de suite oui. tout de suite. Donc oui, c'était un grand oui. Et puis tout de suite, fallait tout préparer parce que je partais en province. Du coup, c'était à Amiens, à la fac d'Amiens. Et donc, en sachant que j'étais toujours en stage en cabinet d'avocat à temps complet.
Ok, donc vous avez maintenu votre stage jusqu'à décembre ?
Voilà, je l'ai maintenu, mais à temps partiel.
Ok.
Donc, super. Je me suis arrangée avec le maître de stage, avec l'avocat, puisque c'est un cabinet d'avocat. Je me suis arrangée avec lui, il m'a dit mais allez-y, foncez, il était derrière moi quoi. Et
super.
Franchement, ouais, on a trouvé une solution. Du coup, je me suis dit je vais pas partir.
Et c'était quoi l'organisation ?
Alors l'organisation, c'était 3 jours du coup de cours à Amiens.
Oui.
Donc je partais le dimanche soir à Amiens et je faisais mes cours donc le lundi, mardi, mercredi. Le mercredi soir, je redescendais sur Paris. Et puis, j'avais mon stage jeudi, vendredi.
Ok.
Voilà.
Super. Ouais. Enfin, ça a dû être hyper intense.
Ouais, c'est hyper intense. Franchement, c'est vrai que la fatigue au début, on la sent pas, mais c'est vrai qu'après, oui, il y a quand même de la fatigue à faire des allers-retours. Donc, ouais.
Et ce Master 2, est-ce qu'il a répondu à vos attentes?
Oui, parfaitement, parce que en plus, c'est un master professionnel. Mm-hmm. Donc, j'avais aussi l'opportunité de faire un stage, soit un stage en alternance, soit un stage à temps complet.
D'où cette organisation
exactement, ouais.
Qui était pensée pour. Ouais.
Exactement. Alors l'organisation, oui, elle était pensée pour jusqu'au mois de décembre. Mmh. Et ensuite, à partir du mois de... C'était fin janvier, début février. Je devais du coup trouver un stage en droit du travail. Enfin, en tout cas, dans le domaine du droit du travail.
Alors que votre premier... Le cabinet où vous étiez...
C'était du droit pénal routier. Mmh. Voilà. Donc, fallait trouver un stage. Donc, moi, je cherchais un stage aussi. Et du coup, j'ai trouvé mon stage qui était aussi sur Paris. Donc, pareil, c'était la même organisation avec les allers-retours à Amiens-Paris. Voilà.
Et si on revient un petit peu sur ces stages, le stage en droit pénal routier, c'était le premier stage ou est-ce que vous en aviez fait avant aussi?
Non, c'était le premier. C'était le premier, ouais.
Est-ce qu'il a été difficile à trouver?
Non, il n'a pas été très difficile à trouver, mais c'est vrai que comme je n'avais pas l'expérience des stages en cabinet d'avocat en plus, c'était un peu compliqué de se mettre dedans, on va dire.
Ouais.
Mais,
vous l'avez trouvé comment?
Alors sur Village de la Justice.
Village de la Justice.
Ouais, ouais. Okay. Tous les stages, en fait. Ouais.
Tous les stages?
Exactement, ouais. Même mon offre, même là, mon offre de collaboration, je l'avais trouvée aussi sur Village de la Justice. Donc,
Il faut rendre hommage. Voilà. J'ai aussi interviewé, mais je crois que c'était Christophe Puech, dont j'ai diffusé l'interview récemment. Et à chaque fois, je lui demande, j'avais dit Village de la Justice.
Ouais.
Village de la Justice.
Moi, c'est les mêmes réponses. Voilà. C'est Village de la Justice, ouais. Okay. C'est ça.
Et ça s'était passé comment, ce premier stage en droit pénal routier? Donc, je comprends un patron plutôt, ou une patronne d'ailleurs, plutôt compréhensif et plutôt dans l'envie de pousser par rapport aux études, etc.
Exactement,
parce que s'il a consenti à ce mi-temps, à part ça.
À part ça, ça s'est super bien passé. Enfin, honnêtement, enfin, j'ai appris plein de choses. C'est vrai que c'était pas ce que je voulais faire de base, mais je me suis dit, il me faut quand même une expérience au cabinet d'avocat. Et même si c'est pas dans le domaine que j'apprécie le plus, ce sera toujours un plus pour moi. Mm. Voilà.
Et le droit pénal routier?
c'est beaucoup de droit administratif. Mais c'est vrai que c'est du droit pénal aussi, mélangé du coup. C'était intéressant. Non, c'était très intéressant. Et puis l'ambiance de travail était bonne.
Et par rapport à la... Du coup, vous étiez projetée comme avocate, vous avez commencé vos études de droit, ça vous a plu, vous avez continué à vous projeter comme avocate.
Ouais.
Là, il y a eu la première expérience professionnelle où on est... pas avocat, mais en tout cas, on est dans le bain des avocats.
D'ailleurs, c'est là-bas, c'est à ce stage-là que j'ai essayé la robe d'avocat de mon patron.
Super.
C'était la première fois que je mettais une robe d'avocat.
C'est lui qui vous l'a proposé de l'essayer?
C'est une des secrétaires.
Une des secrétaires. Je suis en train d'imaginer la scène.
Vas-y, prends-toi en photo. Et du coup, je me suis prise en photo. Et non, franchement, c'était la première fois.
Et vous êtes... quel sentiment?
Je me suis dit, mais... c'est bien. Enfin... C'est cool.
Parce que en plus on se souvient que le costume avait fait partie de faisait partie de
Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit mais c'est trop bien, je vais bientôt pouvoir en porter une.
Ça va être moi bientôt, ouais.
Voilà, c'est ça.
Et le deuxième stage, donc trouvé aussi sur Village de la Justice,
oui.
En droit du travail cette fois?
Oui, cette fois oui, en droit du travail, du coup en harmonie avec mon master 2. oui, cette fois c'était droit du travail et ressources humaines.
Oui. Mmh.
Donc c'était, après c'est dans un domaine, enfin dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas du tout.
C'était quel secteur d'activité?
Dans l'hôtellerie.
Ok.
Mais c'était le meilleur stage que
j'ai.
Ah ouais. Ah non, c'était la plus belle expérience.
Oh là là, ce sourire, il y a eu des petites paillettes dans les
oui.
yeux.
Oui,
on a senti l'élan d'amour envers ce cabinet.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui a fait que ce stage...
Alors, c'était même pas en cabinet, parce que c'était dans l'hôtellerie, donc c'est un hôtel.
Ah, ça aurait pu être pu être un cabinet d'avocats qui travaille
exactement.
Beaucoup sur le secteur hôtelier, mais d'accord, donc c'était dans un hôtel.
Ouais, c'était dans un hôtel, dans le service des ressources humaines.
Oui.
Et c'était super.
Qu'est-ce qui était super?
Le contact avec les gens, même le travail qu'on me donnait, les personnes avec qui je travaillais. C'était génial.
Et ça vous a pas donné envie de poursuivre dans les ressources humaines?
Non, parce que en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, dans le secteur de l'hôtellerie, il y a de tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que nous, on avait un bureau, le bureau RH était ouvert à tout le monde. Donc, ceux qui venaient, les salariés pouvaient venir poser des questions. Et il y avait beaucoup de salariés, en fait, qui travaillaient en cuisine. Donc, les plongeurs, les cuisiniers, etc. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup eux qui venaient, en fait, poser des questions. C'est tout bête, hein, mais des documents qu'on leur met en fait avec leur fiche de paye, qu'ils ne comprennent pas. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ils sont un peu pris, ils sont seuls, quoi, seuls face à un document qu'ils ne comprennent pas. Et je me suis dit, mais en fait, eux, enfin, ces personnes-là, elles ont besoin d'être aidées aussi. Donc moi, c'est avec plaisir que je leur donnais en tout cas les informations. Et du coup, ça crée du lien avec ces salariés-là, même si c'est que professionnel, dans le fond, c'est, on a une petite, on s'attache, quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'était une très très belle expérience.
Et vous vous êtes dit, je pourrais rester dans les ressources humaines, mais je pourrais aussi travailler pour ces personnes-là et les accompagner comme avocate.
Exactement.
Dans
ouais.
la compréhension de leurs droits et de... Est-ce que vous vous étiez projetée comme... En vous projetant comme avocate, alors je comprends qu'il y a le droit du travail qui vous a rapidement plu.
Oui.
Mais est-ce que vous vous projetiez dans une certaine forme d'exercice, dans un certain type de cabinet Non.
Non, pas du tout.
En robe, c'est sûr.
Oui,
mais
c'est
pas
ça.
Dans un... parce que je pose la question parce que je pense par exemple à Nelly Criquet qui dit moi je voulais être une avocate d'affaires dans tel type de structure, je voulais m'habiller de telle manière et tout. Donc c'est pour ça que je pose la question. Non.
Non, pas forcément. Moi je voulais être en cabinet d'avocat parisien.
Oui.
Ça c'était sûr. Je me suis dit c'est vrai que je me suis dit que je vais commencer quand même en collaboration, et puis après on verra.
Et pourquoi parisien ?
Je sais pas, c'est Paris, c'est, je sais pas, la capitale. On se dit il y a une meilleure rémunération aussi. Donc oui, c'était tout ça qui m'attirait un petit peu. Puis il y a des beaux cabinets quand même en droit du travail, en sachant que j'avais fait du coup mon stage EFB dans un cabinet parisien. Donc je me suis dit Paris, c'est bien, quoi.
C'était important pour vous que ce soit Paris.
Ouais, mais ça l'a pas été.
Non, mais on va en parler.
Voilà.
Mais je pose cette question parce que ça me fait penser à une amie qui se reconnaîtra si elle nous écoute, qui vient du 91, en tout cas qui
Comme
a grandi
moi.
Dans le 91, à Athis-Mons. Et pour elle, c'était un point d'honneur de travailler, de vivre dans Paris intramuros. Et je pense qu'il y avait un... Enfin, c'est pas je pense, c'est quelque chose dont on a parlé, mais une vraie revanche, en fait, sociale et sur la vie, dans cette symbolique de venir dans Paris.
Ouais. Ouais. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Et puis on se dit, on est avocat au barreau de Paris, donc ça fait classe.
Oui, c'était important pour vous.
Ouais, c'était important, mais après, je me suis rendu compte que ça faisait pas forcément l'avocate que je suis, en fait. Donc, et aujourd'hui, je suis heureuse là où je suis.
Ouais. Et donc, on en était à votre Master 2, ce deuxième stage bisounours. pas bisounours, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup travaillé, mais en tout cas, ce stage où vous vous êtes sentie si bien.
Ouais. Mais au début, c'est vrai qu'au début, j'avais eu une petite remarque au début du stage. Mais après ça, je me suis remise
C'était quoi cette remarque ?
Alors, la remarque au début du stage, c'était que, moi, à l'heure où je devais partir, je partais. Et puis, au revoir, bonne soirée, etc. À demain. Et du coup, il y avait l'assistante RH qui m'avait dit « J'ai l'impression que tu ne t'impliques pas beaucoup. Par exemple, des trucs un peu bêtes. Hein, à l'heure de partir, tu pars. Mais pas vraiment, tu dois pas partir à telle... Enfin, même si tu dois partir à telle heure, en gros, reste les 5-10 minutes de courtoisie, on va dire. Mais en fait, je pense que elle l'a dit dans le sens où j'avais pas... Enfin, je donnais l'impression de pas m'intéresser.
Ok.
De pas poser trop de questions, etc.
En fait, c'était pas tellement les horaires,
L'implication, on va dire.
En plus de
d'impression. Voilà. Mais du coup, je me suis remise en question. Et après, ça a totalement changé.
Qu'est-ce que vous avez changé pour montrer que vous vous impliquiez ?
Bah, du coup, je posais plus de questions. C'est vrai que c'est un secteur d'activité que je ne connaissais pas. Donc, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait. Donc, je demandais, est-ce que moi, je peux faire ça ? Je peux faire ça ? Du coup, on me disait, oui, tu peux le faire. Donc, en fait, c'est comme ça, en me donnant, on va dire, petit à petit, plus de responsabilités. En fait, je demandais, on va dire.
En me donnant.
Oui, je demandais plus de responsabilités, on va dire. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, est-ce que je peux ? Donc, et au final, on m'a fait confiance. Et ça a fonctionné. Enfin, le stage, en tout cas, il était. À partir de ce moment-là, c'est vrai que le stage, ça a changé, quoi. Mais bon, c'était au bout d'une semaine. Donc, il y avait une semaine, on va dire, d'adaptation. Et après, tout le reste du stage, c'était génial.
C'est chouette parce que en vous disant ça assez rapidement. Sur quelque chose qui relève de la posture, en fait, de l'attitude.
C'est ça.
Elle vous a rendu service parce qu'elle vous a poussé à ce que vous vous questionnez sur, OK, comment est-ce que je montre mon implication ?
Exactement, ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, je suis intéressée, j'ai envie de faire ce stage, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà. Et après, je me suis dit, mais réfléchis un petit peu à pourquoi elle t'en a parlé, pourquoi elle ressent ça. Donc moi, je me suis du coup remise en question et je me suis dit, en fait, c'est à moi de montrer, parce que je suis stagiaire, donc c'est à moi de montrer que j'ai envie, que je veux les aider, parce que je suis là quand même pour aider, je dois être un appui. Et eux, en fait, c'est ce qu'ils attendaient, c'est que je sois leur soutien. Mmh. Voilà. Et donc après, à partir de
et
ça...
Et ensuite, ça a roulé.
Ah oui, ouais, complètement. Mmh.
Et ensuite, vous avez passé l'IEJ, le CRFPA.
Ouais, alors avant ça, faut savoir que c'était tellement bien ce stage qu'on m'a proposé du coup un CDD.
Trop bien.
Ouais, parce qu'en fait, ils savaient très bien que moi je voulais être avocate, que j'avais l'intention de préparer du coup l'IEJ. Et donc, on s'est arrangé pour poursuivre du coup ma relation contractuelle, mais sous forme de contrat. Donc,
super.
Un CDD à temps partiel.
Super.
Voilà.
Donc une meilleure rémunération.
Ouais.
Un contrat plus protecteur.
Oui,
et la possibilité de travailler en même temps que vous prépariez.
Exactement.
Super. Et donc ça a duré toute l'année de la préparation du CRFPA.
Ouais. Un an. J'étais en CDD pendant un an.
Trop bien.
Ouais.
En plus, super expérience professionnelle à mettre en avant après.
Ouais. Exactement. Ça m'a apporté beaucoup.
Et vous avez eu le CRFPA du premier coup ?
Ouais. Du premier coup.
Félicitations.
Donc, merci.
Et vous avez envisagé de faire le CRFPA en régime salarié ?
Non, pas du tout.
Cela dit, je dis ça, mais peut-être que le CRFPA, l'école des avocats en régime salarié, peut-être que pour le faire, il faut qu'il y ait un engagement à l'embauche à la sortie. Je sais pas, je m'aventure sur des terrains administratifs qui sont.
Mais c'est vrai que j'avais pas encore. Quand j'ai eu la proposition de CDD, j'avais pas encore commencé l'UEJ. Donc.
Mais pour la suite, en fait,
vous auriez
pu continuer au sein de ce service en régime salarié pour bénéficier de la rémunération qui va avec.
Vrai.
Bon, cela dit, vous aviez aussi un intérêt à avoir des stages directement cabinet d'avocat. Donc,
c'est ça.
Donc, au bout d'un an, vous quittez cet endroit.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était dur. On a tous pleuré.
Trop chaud.
Ouais. Non, c'était une très belle expérience. Ouais.
Et l'école des avocats, vous êtes allée à Paris ?
À Paris.
À Paris.
Ouais, à Paris. La fameuse école à Issy-les-Moulineaux maintenant.
Oui.
Donc, oui. Après l'IEJ, je l'ai passé à Évry par contre.
Ok. Mm. Et vos stages au sein de l'école ?
Alors, les stages, mon premier stage, du coup, c'est en entreprise. J'ai fait d'abord les 6 mois de cours. Ensuite, le stage en entreprise, c'était au siège de la Caisse d'épargne, à Paris, dans le 13e.
Donc, milieu complètement différent.
Ouais, encore une fois, secteur bancaire, je connaissais pas. Enfin, je connaissais un petit peu parce que j'avais déjà fait des jobs d'été dans les banques. Mais bon, là, c'était au siège de la Caisse d'épargne. C'est un grand groupe. Donc,
Et ça vous a plu ?
Oui,
la banque.
Oui, ça m'a plu. Alors, c'est vrai j'ai fait un stage de 6 mois. Les 3 premiers mois, j'étais dans le département relations collectives et les 3 derniers mois, dans le département relations individuelles. Parce que ce sont deux services en fait différents au sein du siège de la Caisse d'épargne. Et Bah, les 3 premiers mois en relation collective, c'était bien, mais je m'attendais à mieux.
Ah ouais?
Ouais.
Sur quoi est-ce que vous avez été déçu?
Bah sur, on va dire, le manque d'attention des responsables.
Ok, donc plus management que
Ouais.
sur le fond du droit.
Exactement, ouais. Management plus. Oui, j'étais. On va pas dire que j'étais déçue, mais je m'attendais à mieux.
Et
Voilà.
surtout vous sortiez, enfin
Bah
surtout,
oui.
et aussi vous sortiez
Aussi.
d'une
Ouais.
expérience tellement positive
C'est
que.
ça, ouais.
Et aux relations individuelles, est-ce que ça s'est
Ah,
mieux passé?
super, ouais.
Ouais.
Bah, c'est super bien passé. Enfin, on me donnait aussi beaucoup plus de responsabilités bah, dans le suivi des dossiers, la rédaction de lettres de licenciement, par exemple. Enfin, c'est important aussi de savoir en faire. Et puis, non, non. Et puis, le service était géré en fait par une ancienne consoeur qui s'est reconvertie. Et donc, du coup, bah, elle avait, on va dire, elle pouvait me donner des conseils sur le futur métier que je voulais. Enfin, futur métier, oui, j'étais déjà élève avocat, mais oui, le futur métier que je voulais
Oui.
faire.
Et ça vous a plu?
Ouais.
Ça a été un plus.
Ouais. Et enfin, elle a eu de super bons conseils. Elle m'a donné enfin, elle m'a fait confiance aussi. Donc, ça, je pense que ça a été aussi une bonne expérience.
Vous avez dit que dans le secteur hôtelier, ça vous avait plu de l'aspect porte ouverte et travail avec, enfin pour,
Ouais.
parce que la RH est un service support,
Oui.
des populations très différentes, puisque plusieurs
Exactement.
catégories de personnel au sein du service hôtelier, allant de plus démunis vers plus aisés. Et est-ce que, quid de ça dans la banque? C'est-à-dire, est-ce que vous avez retrouvé en termes de personnes que vous assistiez, des choses qui vous plaisaient particulièrement ou qu'est-ce qu'il en a été de ce point de vue-là?
Alors, c'est vrai que, enfin, dans le secteur du coup de la banque, on était chacun dans son service.
Ouais.
En plus, c'est un grand, enfin, c'était dans au siège en fait de
Oui.
la caisse d'épargne. Donc c'est, enfin, on se croise, mais c'est vrai qu'on voit jamais les mêmes personnes. Donc on est tous bah, dans notre bureau en train de travailler et bah, en fait nous on n'a pas vraiment le contact avec de contact avec les salariés, les collaborateurs en agence. Mais c'est surtout bah, les responsables du service qui, eux, ont des contacts, mais c'est plus avec les directeurs d'agence.
Et ça vous a manqué?
Oui, quand même. Ouais. Ça m'a quand même manqué. Mais après, enfin, c'est un autre côté, on va dire, qui m'a aussi apporté. Donc, pour moi, c'était quand même un très beau stage.
Ouais. Et le deuxième stage?
Le deuxième stage, c'était en cabinet d'avocat, du coup.
Oui, à
À
Paris.
Paris, oui. À Paris. Toujours trouvé sur Village de la Justice. Et bah, c'était un stage, oui, à Paris, dans un cabinet qui fait essentiellement du droit du travail.
Et ça s'est bien passé?
Oui, super. Ouais, ça s'est super bien passé. Bah, les avocats étaient super sympas, les collaborateurs aussi. Non, il y avait une bonne ambiance de travail. Et puis mon maître de stage aussi.
Ouais.
Ouais.
Est-ce que il a été question que vous soyez recruté ou pas d'embauche en perspective?
Alors oui, il y avait une embauche en perspective, mais malheureusement, ils n'ont pas donné suite.
Ah mince.
Ouais. Mais bon.
Vous savez pourquoi?
Non, pas vraiment. J'ai pas eu de... Non.
C'est resté
Ouais.
un nom,
Un
pas un
nom...
non-dit,
Oui.
peut-être un non-dit.
Ouais, peut-être un non-dit, mais c'est vrai que bah, on m'avait proposé... Enfin, on m'avait même... Enfin, il y avait une petite réunion. Enfin, il y avait deux associés qui m'avaient pris bah, à part. Ils m'ont dit ce que ça m'intéresserait. Donc moi, je leur ai dit, bah oui, effectivement, ça m'intéresserait. Et au final, après, c'est peut-être pour des... Je sais qu'il y avait des petites tensions, on va dire, au sein du cabinet avec une associée qui partait, un collaborateur aussi qui partait. Donc peut-être que ça a joué aussi dans leur décision.
Oui, peut-être
Mais
que ça a créé du flou autour
voilà, c'est ça.
de l'activité, du chiffre d'affaires, comment est-ce que ça allait
Voilà.
se restructurer et qu'ils n'ont pas voulu.
Exactement, mais enfin, j'ai pas eu de réponse claire, on va dire. J'ai pas non plus demandé. Mais enfin, je garde quand même en tête une bonne expérience.
Oui.
Ouais.
Et vous n'avez pas demandé parce que vous n'osiez pas ou parce que vous étiez un peu
C'est vrai que j'étais quand même un peu déçue.
Ouais.
Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, si c'est pas là, ce sera ailleurs. Et bah, je chercherai une autre collaboration ailleurs. Il n'y a pas de raison.
Ouais. Mm. Et vous avez trouvé facilement ?
Alors, certains pourront dire que j'ai trouvé facilement, parce que c'est vrai que pour certains, c'est long de trouver une collaboration.
Mais je sens que vous, vous avez eu un passage à vide qui a été dur à vivre.
Bah moi, en fait, j'avais une opportunité de collaboration qui n'a pas abouti. Mm-hmm. Par la suite, j'ai tout de suite essayé de chercher, avant même l'obtention du CAPA, j'ai cherché pendant l'été, une collaboration. Je suis quand même partie en vacances,
oui.
Mais j'avais toujours mis, je serai absent de telle date à telle date, mais je suis disponible par mail, toujours, voilà. Donc oui, j'ai cherché tout l'été, le mois de septembre, et des entretiens, mais rien.
Alors, comment ça se passe cette période ? Des entretiens, donc vous postulez, il y a des entretiens, vous passez des entretiens. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe en entretien ? Est-ce que vous avez l'impression que ça ne fit pas ? Est-ce que ça fit et puis ensuite pas de réponse ? Enfin, c'était quoi les cas de figure ?
Bah, pour beaucoup, oui, ça s'est super bien passé. Enfin, moi, je pense que pour eux aussi, ça s'est bien passé. Après, je sais que dans mes dernières recherches, en tout cas dans mes derniers entretiens, je sais qu'il y a un cabinet le cabinet où j'ai pas été prise, c'est parce qu'il y avait une autre candidate ou un autre candidat, je ne sais plus, qui avait déjà prêté serment. Et donc c'est ce qui nous a différenciés, en fait, le fait moi j'avais pas encore prêté serment.
Celui qui pouvait plus rapidement aller plaider.
Exactement, voilà. Mmh. Donc ça a joué.
Ouais. Mmh. Et les autres ?
Et les autres, ça s'est bien passé, mais retour négatif. Il y en a un pour lequel je sais que ils n'ont pas accroché du tout.
Ouais.
Le CV leur a plu, mais j'avoue que quand je suis arrivée devant eux, j'ai tout de suite senti.
Vous avez senti quoi ?
Bah, ils s'attendaient peut-être pas à ça.
Ah, c'est quoi ça ?
Pas à moi.
Ok.
Parce que je m'appelle Maria Claudia Varela, mais je suis d'origine capverdienne et donc j'ai la peau noire. Voilà.
Et vous avez senti que ça a potentiellement été un sujet ?
Moi je l'ai ressenti comme ça, en fait. Mm-hmm. Après, peut-être que c'était pas ça, mais je vois pas ce que ça pouvait être d'autre, parce que tout de suite, en fait, enfin, je suis arrivée au cabinet d'avocat, je me suis présentée à l'accueil, donc on m'a demandé de patienter, j'ai patienté, je les vois arriver, elles étaient deux en fait, je les vois arriver et bonjour, et là tout de suite j'ai vu, en fait, que ça allait pas le faire.
Ça doit être un moment extrêmement difficile.
Ouais, bah surtout pendant l'entretien, parce que on m'écoute pas.
On vous écoute pas ?
Enfin, je parle.
Vous avez le sentiment de pas être écouté.
Ouais, exactement. Enfin, après moi c'est mon ressenti, encore une fois, je sais pas si
on
de l'autre
que
côté,
de votre
voilà,
ressenti,
exactement.
Mais
ouais.
En tout cas, vous avez le sentiment qu'on vous écoute pas, donc elle regarde
exactement.
Ailleurs, elle
oui,
regarde leur téléphone.
Voilà, elle feuillette le CV, enfin elle regarde le CV, pas de questions, enfin voilà. Et j'ai relancé. Je me rappelle que pour celui-là, par contre, j'ai relancé pour savoir, parce qu'on m'a pas donné de réponse, ni positive ni négative. Donc moi, j'ai relancé pour savoir si, quelle est la réponse qu'ils apportaient à ma candidature. Et j'ai relancé plusieurs fois. Je me rappelle que j'ai relancé, ouais, plusieurs fois. Et j'avais l'impression, que j'étais, ils avaient pas vraiment pris en compte, pas de considération, on va dire. Pour ma candidature. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue.
Ouais. Sans regret que vous n'ayez pas été prise, mais
ouais,
ça a
exactement.
Été difficile. Mmh. Et ce qui est quand même fou, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous mettez une photo sur votre CV.
Alors, je n'avais pas mis de photo.
Vous n'avez pas mis de photo.
Mais après, j'ai mis des photos. Après ça, j'ai mis des photos
mais
surtout.
Mais c'est un vrai sujet. Hein. Mmh. Du coup, c'est à double
oui,
tranchant. Parce
exactement.
Que, j'ai pas de connaissances macro économiques, parce que je suis sûre qu'il y a des études en sciences humaines sur ce qu'il en est de mettre un CV pas mettre une photo et donc j'ai pas ces données là je peux pas me prononcer, mais c'est vrai que comme ça à froid ça semble un peu cornélien comme choix, parce que on n'en met pas potentiellement ça permet de passer un premier filtre de discrimination éventuellement, mais il reste le fait qu'à un moment on se rencontre et on peut pas se cacher.
C'est ça, mais c'est exactement ça.
Ouais.
Mmh. Mais du coup, après, j'ai préféré en mettre. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Si on me refuse le CV pour ça, bah, je le saurais pas, déjà.
Oui.
Et puis, de toute façon, enfin, je peux pas cacher qui je suis.
Oui.
Voilà.
Et quand vous n'en aviez pas mis au début, c'était pour ça ?
Non, même pas. J'avais pas de photo, on va dire...
professionnelle.
Voilà. C'était plus pour ça, au début. Et bah, du coup, bah, après, j'ai fait une photo conforme, on va dire. Et puis, je l'ai mise sur mon CV.
Et quand est-ce que ça s'est débouché du point de vue de la collaboration ?
Alors, en fait, j'ai répondu à une offre sur Village de la Justice. Mais c'était à Évry. Donc, en fait, là où j'habitais.
Et alors là, est-ce que ça a été dur de cliquer sur cette offre ?
Franchement, oui. On va dire oui.
Soyons honnêtes.
Voilà. Parce que je me suis dit, oui, bon, bah, c'est Évry, quoi. On verra. Ouais.
Donc, sans enthousiasme.
Sans plus, ouais.
Pour le fait d'une collaboration de là où vous veniez.
Exactement. Sans plus, je me suis dit, bah, je vais essayer. Je vais voir. Et puis, je vois depuis 3 ans. Depuis 3 ans.
Ça se voit bien, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
Et c'est quel type de structure ?
Alors, c'est un cabinet d'avocats où il y a 2 associés et 2 collaborateurs. Mm-hmm. Mais il faut savoir que quand je suis arrivée, en fait, il y avait 2 associés et un ancien associé qui est parti à la retraite. Donc, en fait, moi, j'ai repris tout le pôle droit social.
Parce que les autres associés ne font pas de droit social ?
C'est ça.
Donc, vous êtes arrivée très jeune.
Ouais. Bébé avocat.
Bébé avocat. Je déteste cette expression, ouais. Mais vous êtes arrivée jeune avocate.
Exactement.
Dans une structure. Donc, les 2 autres associés, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, droit de la famille, droit pénal, droit commercial, droit civil pur.
Ok.
Voilà.
Donc, un cabinet plutôt généraliste.
Oui, plutôt généraliste.
Dans lequel il y avait un associé très expérimenté qui faisait plutôt du droit du travail.
Oui.
Et il y a eu un temps où vous avez travaillé avec lui ou vous avez vraiment vous êtes arrivé au moment où il est parti et donc vous avez récupéré son portefeuille de clients.
Bah alors en fait je suis arrivée au moment où il était pas très présent au cabinet. Enfin il était là mais il pensait aussi à sa retraite. C'est ça. Donc, mais il était là quand même, il m'a dit si t'as des questions, n'hésite pas, tu m'appelles, on voit. Donc, parce qu'il y avait des dossiers quand même qui continuaient. Donc forcément, des fois, je demandais son aide, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je venais de commencer, donc oui.
Et ça vous a plu cette configuration d'être un petit peu jeté dans le grand bain rapidement ?
Ouais, franchement, ouais, ça m'a plu. Au début, c'est vrai qu'on appréhende. Mais je pense que de toute façon, il faut exercer. Et la meilleure façon d'exercer, c'est de se lancer. Après, c'est vrai que pour les premiers courriers, je demandais est-ce que c'est bien rédigé ? Est-ce que je dis les bons termes ? Voilà. Mais il faut se lancer.
Ouais. Et au bout de combien de temps est-ce qu'il est définitivement parti du cabinet ?
Quelques mois. Quelques mois, ouais. Après, il restait quand même disponible pour répondre à mes questions. Mais quelques mois, je dirais 6 mois. 6 mois où on a pu échanger sur certains dossiers. Donc voilà.
Et du coup, maintenant. Et vous êtes la seule au cabinet à vous occuper du droit du travail ?
Ouais, je suis la seule.
C'est du droit du travail côté salarié, côté employeur ?
Alors, on fait les deux.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on va dire 80% des dossiers, c'est côté salarié.
Et c'est des clients qui viennent beaucoup par les autres associés, qui viennent par l'ancien associé, le bouche-oreille des précédents clients. Est-ce que vous avez un peu une visibilité sur d'où viennent les clients ?
Ouais. Alors les clients
en droit du travail en tout cas.
Ouais. Il y en a beaucoup qui viennent de qui étaient déjà en fait là parce que c'était l'ancien associé qui s'en occupait. Il y a aussi du bouche-oreille, mais on travaille beaucoup aussi avec les protections juridiques. Donc, on a aussi beaucoup de dossiers de protection juridique au cabinet.
Oui. Et ça vous plaît ?
Oui. Oui, non, mais ça me plaît. C'est, vu l'expérience que j'ai eue dans l'hôtellerie, oui, le fait d'être côté salarié, forcément, c'était... c'est
ça fait sens pour vous.
Voilà, exactement. Et en sachant quand même que pour mon stage en cabinet d'avocat, mon stage EFB, j'étais, enfin le cabinet où j'étais, c'était plus côté employeur. Mmh. Donc j'ai pu voir les deux côtés, on va dire.
Et la conclusion au niveau de, enfin je veux dire au stade de du CAPA, donc avant ouais. de retourner côté salarié, vous aviez une préférence pour la recherche de collaboration?
Oui, plus côté salarié du
plus
coup.
Plus côté salarié, oui. Ouais.
Mais c'est vrai que bah là c'était, enfin du coup le cabinet où j'ai postulé faisait quasiment que ça, donc voilà, même si c'était à Évry et bah
et d'ailleurs voilà. Parlons-en du fait oui. que ce soit à Évry maintenant, rétrospectivement vous en pensez quoi de
bah franchement il y a, enfin je suis très bien là où je suis, je me plais, j'ai une liberté, j'ai des responsabilités aussi, ce que j'aime bien. Personne n'est derrière moi, quoi. Enfin, ils sont quand même un peu derrière moi parce que bon, faut quand même que ça tourne. Mais je pense qu'ils sont contents. Et moi aussi, du coup.
En toute simplicité.
Ouais.
Est-ce que vous développez de la clientèle personnelle ou est-ce que votre clientèle personnelle vous la porte au cabinet ?
Oui, enfin, oui, je développe aussi ma clientèle personnelle. Pour ça, il n'y a pas de difficulté avec, on va dire, les associés.
Ouais. Mmh. Et vous la gardez pour vous ou vous la portez au cabinet ?
Non, je la garde pour moi.
Vous la gardez pour
moi. Oui,
vous.
Oui.
Est-ce que y a
ça m'étonne un peu cette question.
Ben non, parce que je sais pas, vu que vous êtes ah non, c'est intéressant.
Ouais.
En fait, je me dis que comme vous êtes la seule à faire du droit du travail ouais. Pour le cabinet, ça pourrait être une sorte de préparation d'association.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Mais je.
Oui, oui. Non, mais oui, je.
En fait, comme on vous a fait tellement confiance, on vous a recruté oui. pour remplacer sur un pôle très identifié ouais. une personne qui est partie avec un transfert de portefeuille de clientèle, il y a une partie bisounours en moi qui se dit, bah, après tout, si ça se passe ouais. bien, et que. Enfin, voilà.
Non, mais je pense que de toute façon, c'était clair dès le début. Eux, ils ont été clairs, ils ont dit, bah, vous pouvez développer votre clientèle perso. Vous pouvez faire des permanences, on vous laisse faire, en tout cas vous gérez votre emploi du temps.
Ouais.
Voilà. Et donc du coup, bah non, moi les dossiers perso, bah, ce sont des dossiers à moi.
Ouais.
Donc il y a les dossiers du cabinet et puis il y a mes dossiers.
Ouais.
Voilà.
Et vos dossiers perso, ils viennent d'où ?
Alors, il y a de l'AJ, donc l'aide juridictionnelle. Mm-hmm. Mais du coup, vu que les clients à l'AJ, après avoir, une fois que leur dossier est terminé, ils peuvent revenir. Et c'est souvent le cas. Donc, ils reviennent soit parce qu'ils ont encore un autre souci avec l'employeur ou dans un domaine totalement différent. Voilà.
Et pour votre activité personnelle, vous faites que du droit du travail ou vous vous étendez à d'autres problématiques ?
Ouais, je m'étends quand même à d'autres problématiques. Ouais.
Et lesquelles ?
Alors, du droit de la famille,
oui.
du droit civil et un petit peu de droit pénal.
Et ça vous plaît ? Famille, civil, pénal ?
Ouais, ça me plaît. Après, le droit de la famille, c'est vrai que c'est particulier parce qu'on va dire on porte un petit peu les gens dans leurs difficultés. Parce que c'est vrai qu'il faut... Enfin, c'est beaucoup... on rentre dans la vie intime des gens. Enfin, même si dans le droit du travail, il y a aussi ce côté... les gens... Enfin, les personnes qui viennent vous voir, en fait, quand ils ont un problème avec leur employeur, c'est vraiment ils ont subi un licenciement la plupart du temps. Et pour eux, la vie s'arrête. Ils ont été licenciés, donc pour eux, plus de revenus, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont désemparés. Donc voilà. Après, le droit de la famille, c'est beaucoup plus intime, je trouve, dans la vie des gens, dans la vie intime, quand même.
Et ça vous plaît ou pas trop ?
Alors... Pas trop, faut pas que ce soit non plus parce qu'il y a des clients, des fois j'en parle avec des consoeurs, des confrères, des fois il y a des clients, oui, c'est vrai qu'ils sont quand même, enfin, ils nous font confiance, donc forcément, ils nous disent tout, il faut mettre ça, enfin, en fait, c'est comme si nous, en fait, on rentrait aussi dans le problème familial, j'ai l'impression. Mm. Après, ouais, c'est mon impression à moi.
Et ça, c'est pas votre truc?
Non, pas trop. Je préfère rester un petit peu plus en retrait, parce que sinon, c'est sûr qu'on a tout de suite un avis tranché. Mais ouais, je préfère rester un petit peu plus en retrait. Donc, c'est pour ça que je fais quand je fais par exemple des divorces, soit c'est des personnes qui sont venues parce qu'ils avaient déjà un autre dossier avec moi, soit des divorces par consentement mutuel, où il n'y a pas vraiment de conflit.
Oui.
Ou aussi bah, des procédures hors divorce pour demander bah, un droit de visite et d'hébergement, etc.
Mmh.
Voilà.
Mais vous ne cherchez pas à, avoir, à être identifiée comme une avocate en droit de la famille non. Et est-ce qu'on vous envoie en première intention des personnes qui veulent divorcer et qui se battent pour leurs enfants ?
Ouais, non, non, non. C'est... Non. Je... Non, non, non. Voilà.
Et le droit pénal ?
Le droit pénal, en fait, j'ai commencé par faire des permanences garde à vue. Donc, j'avais commencé par ça. Enfin, le cabinet m'avait déjà dit... vous pouvez faire ça, enfin c'est bien, enfin ça vous permet d'être rémunéré, puis vous voyez un petit peu bah, comment ça se passe déjà les gardes à vue. C'est vrai que bah, quand j'ai commencé à en faire, ça m'a plu parce qu'on est au tout début de la procédure hein, quand même. Si il y a poursuite, des poursuites derrière, mais ouais c'est intéressant, c'est très intéressant, mais il faut connaître la procédure.
Ouais. Mmh. Ouais. Vous vous êtes cassé les dents sur certains un dossier.
Pour l'instant, non, j'essaie d'être assez. hein. Je regardais tout. Est-ce que ça a bien été notifié à telle heure ? Bon, d'accord. Voilà.
Mmh. Et qu'est-ce que. On n'a pas reparlé de votre famille, mais
ouais.
Qui vous a beaucoup poussé à faire ces études et vous êtes allée jusqu'au bout des études ouais. Et maintenant vous êtes avocate. Qu'est-ce qu'il en est pour vos parents, en fait, par rapport à vous et par rapport à vos parents et...
mmh. Bah, je pense qu'ils sont fiers. J'espère. Oui, parce que, enfin, pour eux, c'est, enfin, quelqu'un, avoir quelqu'un qui est déjà sa fille, sa propre fille qui est avocate, pour eux, c'est waouh, quoi.
Ça a un impact que ce soit sa fille.
Ouais. Ouais. Bah oui, parce, oui, forcément. C'est pas, c'est quelqu'un. Même si, bah, chez nous, en tout cas, la famille, c'est très important. Mais même si ça pouvait être bah, une cousine à moi ou une tante, peu importe, mais ils auraient été contents aussi. Mais là, c'est leur fille, quoi. Enfin, je pense que pour eux, ils le voient comme ça. Enfin, c'est ce que je pense.
Je pense que quand je demandais, ça a un impact que ce soit sa fille. Je pense par opposition, ouais. Contraste avec un fils.
Ah.
Mais ouais. Là, je suis dans l'exploration totale. Hein. C'est que des questions très ouvertes. Ouais.
Non, bah non. Peu importe que ce soit sa fille ou son fils. Ouais, peu importe. Je pense qu'ils de toute façon ils sont fiers de nous. Même si bah mon frère, enfin j'ai un frère et une sœur du coup qui sont plus petits, mais moi en plus j'étais l'aînée, donc je devais un peu montrer l'exemple. Et même les autres, hein, ils sont aussi fiers de ce qu'ils font, même si c'est pas avocate, bah c'est des métiers aussi qui sont bien. Enfin ouais. Qui, en tout cas ça.
C'est des métiers qui leur plaisent.
Voilà, ça leur plaît. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'ils peuvent être que fiers.
Je demande parce que moi, ma grand-mère ne savait pas conduire.
Ouais.
Et du coup, c'était important pour elle que ses filles
sachent conduire.
Et donc, c'était, je pense, aussi important pour elle que son fils sache conduire. Oui. Mais je pense que ma grand-mère a particulièrement...
D'accord.
Avait un truc particulier avec cette zone de non-indépendance dans sa vie.
Ah, d'accord.
Et donc... Okay. Effectivement, il y avait ce truc où les filles devaient avoir le permis, quoi.
D'accord, ok.
C'est pour ça que oui. Je demande.
Non, mais non. Que ce soit son fils ou sa fille, enfin, que ce soit leur fils ou leur fille, je pense que pour eux, c'est peu importe le genre.
Et est-ce que... Là, je pense plutôt par référence avec mon interview de Mago Sukuna.
Oui.
Est-ce que vous...
Que d'ailleurs, je connais parce que...
C'est vrai.
Oui, parce qu'on a fait en fait nos études ensemble à Évry.
Ah, c'est fou.
Mais je connaissais pas du tout son histoire.
Le monde est minuscule.
Ouais, je connaissais pas son histoire et j'avoue que j'ai écouté son podcast jusqu'à la fin.
Ouais.
Et mais je me dis mais ah ouais quand même. Enfin, on se voyait donc on se disait bonjour, enfin salut, ça va, mais jamais on rentre pas dans la vie intime des gens quoi. Donc ouais. Là en découvrant ça, c'est vrai que je me suis dit ah ouais quand même. Enfin. Elle a vécu des choses, quoi.
Ouais, c'est
et on la voyait avec sa petite voiture arriver en cours et tout. Et du coup, je me rappelais ces moments-là où on la voyait avec ses livres, sa petite voiture, elle se garait. Enfin, voilà. Non, c'est marrant.
Et elle explique que du fait de venir d'un milieu social où il y a juriste dans son environnement proche, il n'y a pas d'avocat, qu'elle est un peu la seule référence d'avocat, et ben qu'en fait, ça lui amène énormément de clientèle parce que, du coup, dans son milieu social, il y a des besoins de droit et elle est la seule personne à laquelle on pense, ou en tout cas, les personnes se disent « Ah bah, il y a Maître Sukuna qui peut nous aider
!» Bah, c'est exactement
et
ça.
Et est-ce que c'est comme ça aussi avec vous ?
Bah oui, c'est exactement ça. Enfin, c'est vrai que moi, mais mon père, bah, il travaillait dans le bâtiment. Et, enfin, il travaillait, maintenant, il a la retraite. Mais c'est vrai que, des fois, il me dit « Oh, j'ai mon collègue, il veut te poser une question, je te passe son numéro, tu l'appelles ou... » Ou même d'autres personnes, hein, des tantes, des oncles qui m'appellent ou des personnes qui ont entendu dire que j'étais avocate, qui appellent mes parents pour leur demander est-ce que c'est vrai et qu'ils ont un problème et est-ce que, voilà. Enfin, c'est comme ça, c'est du bouche à oreille aussi.
Donc comme
mais en plus, j'ai deux dossiers en cours de personnes de la famille. Quoi.
Donc vous dites que c'est des dossiers, beaucoup de dossiers d'AGI qui viennent, mais en fait, avant d'être des dossiers d'AGI, c'est des dossiers... corrigez-moi si je me trompe, est-ce que c'est des dossiers d'AGI de désignation par le bâtonnier ou est-ce que c'est beaucoup de dossiers d'AGI du fait de ce milieu social avec ses besoins, vous êtes identifié, on vous contacte, il se trouve que ce sont des personnes qui sont éligibles à l'AGI d'un point de vue purement financier, enfin de leur situation économique, et donc il se trouve que c'est des dossiers d'AGI, mais il y a quand même un intuitu personae existant parce que c'est ce réseau-là de la famille et de là où vous venez, quoi.
Bah en fait, c'est des désignations d'abord à l'AGI par le bâtonnier, déjà. Parce qu'on commence... Enfin, quand on commence, c'est vrai qu'on a beaucoup de désignations à l'AGI dans le domaine, où on souhaite exercer. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent nous voir et qui sont éligibles à l'AGI. Donc, forcément, oui, c'est vrai que... Il y a un peu des deux.
Et comment est-ce que... je veux dire... quelque chose me dit que vous avez beaucoup de clientèle personnelle.
De plus en plus. Ouais. De plus en plus, oui.
Ça a mis longtemps à démarrer ou c'est vous qui, au début, freiniez un peu ?
Bah, on va dire qu'au début, j'avais les dossiers du coup à l'aide juridictionnelle où j'étais désignée par le bâtonnier. Et ensuite, petit à petit, bah, c'est venu. Donc, j'ai pas forcément freiné, mais c'est venu en fait petit à petit. Au début, bah, on a simplement les dossiers à l'AGI de désignation par le bâtonnier. Ensuite, ça vient petit à petit. Bah, le bouche à oreille, les gens entendent que vous êtes avocate, etc. Donc, voilà.
Et donc, ça prend.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous envisagez de vous installer ?
Pour l'instant, non. Après, sur le long terme, pourquoi pas ?
Ouais.
Ou une association, peut-être ?
Peut-être. C'est marrant parce que moi, ça m'a semblé tellement... Mais moi, je pense que je suis un peu trop fissonneuse. Mais ok. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est qui vous êtes et vous êtes comme ça et vous n'allez pas vous cacher. Est-ce que vous sentez que vous valorisez aujourd'hui qui vous êtes dans votre exercice de la profession d'avocat ?
Oui, je pense que oui. Bah, de toute façon, comme je l'ai dit, il ne faut pas se cacher. Hein. Et puis, une fois qu'on est avocate, pour ma part en tout cas, il faut donner le meilleur de soi pour pouvoir défendre les autres. Et donc, donner le meilleur de soi, c'est travailler. C'est bien travailler les dossiers, c'est apporter des réponses aux clients, des réponses qu'ils comprennent. Parce que forcément, on n'a pas non plus des personnes tout le temps qui viennent d'un milieu... social favorisé. Donc il faut aussi leur faire comprendre les choses et être un soutien pour eux parce que c'est vrai que l'avocat dès qu'il y a un problème on vient le voir donc on est un petit peu un soutien pour eux.
Vous vivez comment cette partie soutien psychologique?
Psychologiquement plutôt bien. J'ai pas de clients qui sont très intrusif, on va dire. Je pense que de toute façon, au bout d'un moment, il faut leur dire stop, quoi.
Et donc, vous dites stop ?
Ouais. Il faut dire stop.
Ouais.
Ouais, parce que sinon, ça va trop loin.
Et donc, est-ce que vous avez un exemple concret ?
J'avais eu un client à l'aide juridictionnelle pour qui j'avais du coup pu négocier une transaction. Donc, on a eu un accord. Ensuite, il avait un autre dossier, en fait, parce que vu qu'il avait perdu son emploi, il avait des problèmes de loyer. Donc j'ai été aussi désignée à l'AGI pour ces problèmes de loyer. Et là, du coup, bah, c'est moi qui ai accepté, en fait, de prêter mon concours. Donc, il y a eu ce dossier-là. Et donc, on a pu aussi négocier donc un échéancier, etc. Et par la suite, bah, je voyais que le client était insistant. Il revenait. Oui, bah, qu'en est-il de mon dossier? Il me parlait d'un dossier, en fait, de... Il m'en avait parlé, mais moi, j'y prêtais pas vraiment attention, d'un dossier de... en ce qui concerne le droit des étrangers, concernant son titre de séjour, etc. Et... bah, moi, j'avais pas, enfin, j'ai pas été désignée pour ça déjà, et il m'avait pas mandaté pour cette procédure. Donc, en plus, on n'en avait pas parlé plus que ça. Et il s'avère que par la suite, enfin, du coup, je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas désignée, je n'ai pas été désignée pour cette procédure, et je préfère que vous vous rapprochiez d'un autre confrère qui est compétent dans ce domaine-là. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai plus de nouvelles. Et puis, enfin, j'ai reçu un courrier du bâtonnier me disant que j'avais pas traité le dossier de monsieur. Donc là, grosse surprise, je me suis dit, monsieur comment? Je me suis dit, je vais rechercher dans mes affaires, dans mes archives. Et en fait, bah, j'ai ressorti l'accord transactionnel qu'on a eu, bah, les courriers aussi échangés avec le client. Et du coup, bah, l'affaire était classée. Mais c'est vrai que je me suis dit, pourquoi il revient à la charge, quoi?
Oui.
Donc, alors que j'avais dit non déjà. Donc voilà.
Et du coup, vous avez dû lui dire, en fait, c'est pas moi votre avocat sur ce dossier,
Voilà,
ou c'est
mais
le
oui.
bâtonnier qui l'a fait?
Je
L'aider?
pense que oui, le bâtonnier l'a fait, mais moi je l'avais fait déjà avant, bien avant, en lui disant bah, ça s'arrête là, parce qu'en plus il était très insistant, donc j'avais dit je ne traiterai plus de dossier de votre de qui enfin de vous.
Ouais.
Je voilà.
Se faire jeter par son
Ah.
avocat.
Non, mais il était vraiment très
Non, non, mais
insistant, et
j'en
puis
doute pas.
voilà.
Là, j'en rigole, mais.
Ouais, ma patience a des limites, on va dire.
Ouais.
Voilà.
Et comment est-ce que vous projetez votre exercice?
Alors, j'aimerais bien, bah, soit une association, comme je vous ai dit, soit bah, ouvrir une structure. Je pense que, au bout, enfin, là pour l'instant, ça fait 3 ans déjà que je suis en collaboration, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de difficulté. Enfin, je gère mon emploi du temps. Je gère mes clients, je gère bah, tout, les audiences, voilà, ça se passe très bien. Donc, on verra.
Que ça se poursuive comme ça.
Voilà,
En termes de domaine
j'espère.
d'activité, est-ce que vous avez envie de maintenir comme c'est? Est-ce qu'il y a des activités que vous avez envie de faire plus, d'autres moins?
Bah, moi, j'ai envie de main. Enfin, je veux quand même garder ce côté droit du travail, droit de la... parce qu'il y a du droit de la sécurité sociale aussi, dans le droit social. Droit de la sécurité sociale, donc droit du travail. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, aussi un petit peu développer en droit de la famille, mais comme je vous ai dit, en restant un petit peu en retrait et donc faire un petit peu plus bah, de dossiers, on va dire, qui concernent bah, les droits du site et des hébergements, les divorces par consentement mutuel ou les divorces non conflictuels. Pas rentrer dans le conflictuel, en tous les cas. Du droit pénal aussi, j'aimerais bien.
C'est amusant parce que j'échangeais avec une avocate ce midi qui me disait alors on vient voir pour du divorce, moi je veux bien continuer le divorce, mais bah alors le divorce non conflictuel, hein, moi je veux pas. J'ai dit mais ok, donc tu veux surtout développer du divorce
Ouais, non conflictuel, c'est
par
ça?
consentement mutuel. J'ai dit mais enfin les gens savent pas forcément
Oui.
tout de suite si ça va vraiment être non conflictuel ou
C'est
pas, donc
ça.
comment tu gères au niveau de
Non, mais
la
c'est
prise
ça.
de dossier? Alors j'imagine qu'il y a des dossiers où quand ils arrivent on sait tout de suite que ça va être Verdun et
Mais des fois,
que
on peut leur demander aussi, est-ce que vous avez des difficultés, enfin, est-ce que vous avez déjà échangé avec votre futur ex-conjoint? Est-ce que vous, enfin, est-ce que vous pensez que vous allez être d'accord en tout point ou pas? Donc, oui, c'est des petites questions à poser avant, pour avoir un avant-goût, on va dire, du dossier.
Un avant-goût
Ouais.
de si ça sent mauvais ou pas.
C'est ça.
Et quelle est votre dernière joie?
Ma dernière joie, c'était un dossier que j'ai gagné récemment.
Oui.
Ouais. Pour une salaire. Enfin, honnêtement, en fait, on va dire, les conseils de prud'homme, on a des a priori. Enfin, des a priori, oui, on va dire ça. Il y a des conseils de prud'homme qui sont plus pro-employeur, d'autres plus pro-salarié. Et là, c'est vrai que j'étais devant un conseil de prud'homme plus pro-salarié. pro-employeur, pardon. Et donc, c'est vrai que bah, je me suis dit, bah, on va peut-être pas obtenir ce qu'on voulait, mais j'espère qu'on l'aura en tout cas. Et c'est vrai que pour cette salariée, ça m'a touchée aussi parce que c'est une petite dame assez âgée qui venait d'être licenciée. J'ai trouvé en tout cas que les motifs qui étaient invoqués contre elle n'étaient pas forcément justifiés. Et du coup, on en a apporté la preuve. Et bah, on a gagné du coup ce procès. Et, elle était très contente. Elle m'a remerciée. Merci de m'avoir soutenue. Enfin, des petits mots comme ça qui sont... on va dire qu'ils peuvent être des petits mots bêtes, on va dire. Mais ça fait plaisir d'avoir juste des remerciements, en fait.
La gratitude, hein.
Ouais, exactement. Juste des remerciements. Et encore ce matin, oui, c'est ça, ce matin, elle m'a appelé pour me dire... Enfin, elle a appelé au cabinet, j'étais pas encore là. Mais elle m'a envoyé un mail juste après pour me dire « J'ai bien reçu mes sous. J'espère que vous avez pris vos honoraires dessus. En tout cas, merci encore, etc. » Enfin, voilà. Parce que certains clients, quand ils reçoivent les sous, des fois, ils nous disent pas « J'ai bien reçu les sous. » Donc voilà. Mais oui, non, ça fait plaisir.
Ouais.
Ça fait plaisir.
Bah, ça se voit parce que vous avez les pommettes qui se sont mises à saillir. Ouais. Et je pense même que vous rougissez un peu.
Peut-être.
Mais c'est plus difficile à dire oui. Que quand c'est moi. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? La fameuse, d'ailleurs, on n'en a pas parlé ouais, de bah votre ouais. Robe.
Bah, en fait, oui, ma robe. Bah, d'ailleurs, quand je l'ai essayée, bah, du coup, je l'avais déjà portée au stage.
Oui.
Mais quand je l'ai essayée, quand j'ai essayé ma robe, il y avait ma mère avec moi.
Oui.
Et une consoeur aussi, puisqu'on a eu le kappa en fait ensemble. Et du coup, ma mère était ah, c'est trop beau, c'est trop bien. Elle était, ouais. Elle était super contente.
Et ça vous a fait quoi ça ? Le bah... regard de votre mère sur votre robe et bah, sur ouais. Vous dans votre robe ?
Bah, je suis contente, de la joie. De la joie aussi, parce que je sais que pour eux, c'était pas facile. Parce que bah, ils viennent de loin, donc ils sont venus en France, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, pour travailler. Ils n'ont pas forcément eu... ils sont bien aujourd'hui, mais c'est vrai que s'ils avaient pu travailler, enfin, continuer leurs études, je pense qu'ils l'auraient fait. Mais il fallait partir pour trouver une vie meilleure, avoir aussi des sous. Donc, ouais.
Tu n'avais pas connaissance d'une communauté capverdienne enfin, je ne savais pas qu'il y avait de l'immigration du Cap-Vert en France.
Ouais, ouais, si, il y en a pas mal quand même.
Il y en a pas mal.
Ah oui, oui.
Et c'est une... Enfin, ça s'éloigne complètement du sujet, mais ce n'est pas grave. c'est une immigration qui vient... Enfin, qu'est-ce qui fait que ce canal est identifié France-Cap-Vert ?
On est dans une ancienne colonie portugaise.
Ben oui, c'est ça que j'avais en tête.
C'est
en fait.
Ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, mon père, en fait, il a d'abord été au Portugal pendant plusieurs années et ensuite il est venu en France. Mais c'est vrai qu'en France, c'était un peu l'Eldorado, on va dire. C'était bah, la France, c'était waouh. Enfin, voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'immigration capverdienne en France.
Capverdienne en ouais. France, ok. Moi, mes parents m'avaient ramené du rhum arrangé du Cap-Vert et je m'en suis jamais remise. Et tous les rhums arrangés que je bois, ouais. Je les bois et je les juge en référence à ce souvenir fantasmé du rhum du ouais. Cap-Vert. Et c'est terrible parce que je ne retrouverai jamais ce rhum arrangé capverdien
ouais.
En France.
Et ouais.
Mais c'est méconnu, personne ne le sait.
Ouais,
mais...
personne ne le sait. Pourtant, ouais, c'est vrai qu'on produit beaucoup de rhum. De toute façon, on vit quasiment que de l'agriculture au Cap-Vert.
Ouais. Non, mais sachez que le rhum arrangé du Cap-Vert est extraordinaire et sans pareil. En tout cas, moi, j'en ai un souvenir absolument. Mais à ce stade, je pense que je l'ai complètement. Je pense qu'en fait,
oublié.
Il ne faut pas que j'en.
Ouais.
Non, mais surtout, je même pense qu'il ne faut pas que j'en reboive parce que je vais être déçue. Je m'en suis fait tellement un truc.
Ouais.
Voilà, bref, merci beaucoup Maria Claudia Varela pour cet échange.
Je vous en prie. En tout cas, c'était avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir de partager un petit peu mon parcours. Et puis, qu'il puisse être diffusé aux autres.
Oui, mais sans aucun doute. Je suis sûre que vous recevrez des messages.
Merci, merci beaucoup en tout cas.
Merci.